Oui, alors je remercie Philippe et Arlette qui m'ont donné cette opportunité de parler aujourd'hui. Et mon principal objectif, c'est que vous partez d'ici avec cette idée de que pour Dieu, tout est possible. L'impossible n'existe pas pour lui. Alors, je vais commencer aussi par me présenter. Donc, je m'appelle Monica. Je suis d'origine colombienne, mais maintenant c'est Monica Zuffré. Donc, je me suis mariée à Nicolas qui est là. Aujourd'hui, mon mari. Et ça fait déjà 15 ans que je suis en Suisse et j'ai aussi mon fils Étienne qui est venu. Et d'ailleurs, je voudrais aussi remercier tous mes amis de Neuchâtel qui ont fait le déplacement pour venir me soutenir aujourd'hui. Et merci à vous que vous avez pris le temps de ce matin vous lever. Et pour le Seigneur, c'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur que nous sommes là. Je voudrais vraiment juste faire une courte prière. Et je remercie, Seigneur, merci parce que nous sommes là aujourd'hui. Je voudrais, Seigneur, que ton Saint-Esprit, il parle à ma place. Et moi, je voudrais m'effacer et que toi, tu puisses parler. Je bénis, Seigneur, cette parole que je vais donner pour qu'elle arrive comme une flèche jusqu'elle doit arriver. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, moi, je suis de formation biologiste et actuellement, je travaille à la Haute École bernoise à Zollikofen et je suis collaboratrice scientifique. J'ai fait un doctorat en biologie, un master en physiologie végétale. Mais voilà, ça c'est un peu pour que vous sachiez qui je suis. Et aujourd'hui, alors, je vais raconter un tout petit peu de ma vie parce que je crois que ma vie peut toucher. Alors, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mon père, il a grandi dans une famille évangélique et ma mère, elle était catholique. Donc, moi, j'étais un dimanche au culte et un dimanche à la messe. Et on était aux deux. J'ai grandi dans une école catholique avec des sœurs. Et je dois dire que déjà, à ce moment donné, on avait des sorties, on nous faisait comme des retraites et je sentais déjà quelque chose en moi. Mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce que c'était. Mais je savais qu'il y avait une force supérieure à moi. Et mon père, il était un homme qui aimait beaucoup les affaires on va dire, c'était pas des grandes affaires, mais il avait un petit commerce. Et il vendait des habits et tout se passait bien jusqu'à ce qu'un jour il a fait faillite. Moi, j'avais 13 ans et on avait un style de vie. Et quand la faillite est arrivée, les avocats sont arrivés, ils sont tous ici. On n'avait même pas une télé. Tout ce qu'il y avait dans la maison a été pris. Et ensuite, je pense que c'est là où j'ai commencé un tout petit peu plus à m'intéresser à la bonté de Dieu. Ma mère et mon père, on n'avait plus rien. On a été accueillis chez mes grands-parents qui ont, en fait, ils avaient une maison et ils ont construit pour nous deux chambres, une petite cuisine et une salle de bain. Mais l'endroit était vraiment rustique. On n'avait pas de mur de protection, c'était ouvert. Et j'ai même le souvenir que pour aller le soir aux toilettes, je voulais pas parce que on voyait les rats et les souris qui se promenaient dans les toits des maisons. Ça me faisait très peur. Et alors, à ce moment donné, ma mère et mon père, ils ont reçu le baptême. Je me rappelle les voir tous habillés en blanc. Ils ont été dans la piscine de l'église de mes grands-parents. Ils ont reçu le baptême. Et je disais, moi, je comprenais pas trop à cet âge-là, 13, 14 ans. Et j'ai commencé à voir ma mère beaucoup prier. Je la voyais tout le temps en pleurs. Je disais, mais elle, tout le temps, elle fait que pleurer, mais elle priait, elle priait, elle priait. Et mon père avait acheté une cassette et il nous mettait la louange. Donc on était déjà plus ou moins dans cette atmosphère. Et j'ai commencé à voir les miracles des provisions. Il y avait toujours quelque chose que Dieu faisait pour qu'on ait à manger. Déjà, première chose, manger. On n'avait parfois rien du tout. On se levait le matin et on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer la journée. Mais Dieu faisait toujours quelque chose. Et après, j'ai fini l'école obligatoire, mais j'ai aimé l'école. C'était pour moi, personne m'a jamais dit d'aller faire les devoirs. C'était pour moi, c'était comme un temps, moi j'aimais les devoirs, j'aimais les sciences, c'était ça mon truc. Et j'ai commencé à m'entraîner parce qu'en Colombie, on fait ce qu'on appelle un examen d'état à la fin de l'école obligatoire et on peut, c'est-à-dire, par rapport à ce point qu'on a obtenu, on peut aller à l'université publique. c'était mon objectif. Université privée, c'était pas possible, on n'avait pas pour payer. Alors, j'ai eu cette grâce que j'ai été dans un bon classement et j'ai commencé l'université en Colombie. Et la biologie. Mais vous imaginez, j'ai fait ma carrière et je n'avais pas d'ordinateur. Je n'avais pas de livres. Je n'avais même pas pour, parfois pour manger quelque chose à l'université. Et c'était à chaque fois, on attendait le soir que mon père arrive, qu'il avait trouvé quelque chose pour nous donner pour le lendemain. Je me rappelle aussi, maintenant je rigole presque, mais c'est, à l'époque c'était pas drôle. Et un témoignage que j'aime beaucoup, c'était une fois, quand j'étais à l'université, je devais choisir, soit je fais des copies pour étudier, soit je prends le bus. Donc, vous imaginez, j'ai habité l'université jusqu'à ma maison, c'était 1 heure en bus, 3-4 heures à pied. Je l'ai fait d'ailleurs, rentrer à pied. Mais cette fois-là, je me suis dit, c'est pas possible, c'était déjà à la fin de l'après-midi. Et je me suis mise devant, je n'avais pas d'argent pour le bus. Et j'ai eu cette conviction en moi. Une voix qui me dit, va à l'arrêt de bus. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai commencé déjà à demander au Saint-Esprit et attendre une réponse. Et alors, je suis allée à l'arrêt de bus, je me suis dit, peut-être que quelqu'un va passer, une voiture, un ami, quelqu'un va me prendre. Non, non, rien. Et la voix en moi me dit, le bus arrive. Donc chez nous, le bus, il s'arrête pas d'office, tu dois faire signe. Et le bus, je le vois de loin et le Saint-Esprit me dit, maintenant je sais que c'était le Saint-Esprit qui me dit, vas-y Monica, fais signe. Et je dis non, 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 je ne fais pas signe. Je ne veux pas parce que ça sera la honte. Je vais faire quoi quand le chauffeur va me demander l'argent pour payer? Je n'avais pas. Et alors, la voix insiste. Fais signe! Fais signe! Et avec le peu de foi, parce que voilà, c'était dur, j'ai fait signe. Le bus, il s'arrête. Je vois le chauffeur. Je monte la marche. Et par terre, il y avait un billet, de l'argent, pour que je devais juste prendre et donner au chauffeur. C'est tout simple, mais c'était un pas de foi. Et c'est ça que je veux que vous gardez comme ce témoignage. Parfois, vous devez faire cette étape de faire signe. Vous n'avez toujours pas l'argent. Démonter le pied, vous n'avez toujours pas l'argent. Et il est là. Et comme ça, j'ai passé mon université. Je n'avais pas d'ordinateur. À la fin, la dernière année, l'ordinateur commençait vraiment à devenir un besoin. Je devais rendre des dossiers, des choses écrites. Et je n'avais toujours pas. Et j'ai le souvenir une amie. Elle me disait, mais Monica, j'ai mon ordinateur, mais je l'occupe toute la journée. Mais il est libre la nuit. Alors, j'allais chez elle. Dans sa chambre, elle dormait et moi j'ai travaillé. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Mais j'avais toujours en moi cette motivation. Quelque chose qui me disait, une fois que tu auras ton diplôme, l'avenir va aller mieux. Chaque fois, j'avais ça dans mon esprit. Et avec beaucoup de sacrifices, voilà, je suis arrivée à la dernière année. Et j'ai connu un cours qui s'appelle biologie moléculaire. Et je suis arrivée à ce cours. Le prof a donné ses cours et je suis tombée amoureuse. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. J'ai connu cette passion en lui parce qu'il était, très passionné et il m'a la transmis cette passion. Et quand j'ai vu ses cours, vous savez, à la fin du bachelor, on doit faire un travail de bachelor. Et je me suis dit, je veux faire avec lui. Et j'ai été le voir. Et je lui ai dit, Monsieur, est-ce que je peux faire mon travail avec vous? Non, désolé. Il n'y a pas de place. J'ai déjà quelqu'un. Voilà, j'étais toute déçue. J'arrive en pleurs à la maison. Je dis à ma mère, je donne ma prière. J'ai donné à ma mère ma pétition. Ma mère m'a dit, t'inquiète pas, on va prier. La semaine suivante, c'est lui qui vient vers moi. Il me dit, tu sais Monica, l'étudiante, elle veut plus. Alors tiens, c'est pour toi. Il m'a donné 15 articles. En anglais, comme ça, un paquet. Vas-y. Et j'ai dit, oula. J'espère que j'ai bien choisi, voilà. Et j'ai commencé à lire tout ça. Et il y avait en tout cas 5 articles, c'était marqué Université de Neuchâtel. Université de Neuchâtel. Université de Neuchâtel. J'ai dit, bah bon, intéressant. Et après ça, le même professeur, il m'a dit, Monica, j'ai une très bonne nouvelle. On peut postuler pour une bourse pour que tu ailles en France, à Paris, pour que tu fasses un séjour avec un professeur physicien. Et j'étais là. Ça, c'est l'opportunité de ma vie. Mais il m'a dit, non, attends. Il faut pas trop te motiver parce que c'est dur d'avoir cette bourse. Alors, reste tranquille. J'ai dit, ok, bon. Et alors, à nouveau, je viens chez ma mère et j'ai dit, maman, tu peux prier. À ce moment donné, on va dire que c'était plus ma mère qui priait. Mais j'avais foi dans sa prière. Et ça s'est passé comme ça. Le prof, il a dit, d'accord, maintenant on va poser les documents, on a fait la demande et tout ça a été démarré pour cette bourse. Et devinez quoi? Bah, ça a été accepté. Et la grâce de Dieu est tellement, tellement grande. Je me rappelle quand il m'a dit ça. Et j'ai dit, mais attendez, je parle pas un mot de français. Comment je vais aller en France? Il a dit, tu as 3 mois pour apprendre. J'ai dit, ah, d'accord. Et je lui ai dit, je veux apprendre, mais je n'ai pas un sou pour payer un cours. Pas de souci. Pardon. Tiens, tu vas t'inscrire, premier mois. Deuxième mois, c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Troisième mois, c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Et après, ça arrive le moment de prendre l'avion et partir en France, à Paris. Je n'avais même pas une valise. J'ai été dire au vice-recteur. Je lui ai dit, écoutez, je vais aller, mais je n'ai même pas une valise. Il a dit, vous n'avez pas une valise? J'ai dit, non. Il a dit, alors, allez-y, vous faites une liste de tout ce que vous avez besoin et vous venez vers moi. Et j'ai fait ça. J'ai écrit même une paire de chaussettes. J'ai tout écrit, ce que j'avais besoin. Il a fait un calcul et il a dit, tenez, c'est l'université qui paye. Vous devez juste m'apporter les factures. Et je suis partie en France. J'étais accueillie chez deux, c'était un couple, lui physicien et l'avocate, dans les meilleurs quartiers de Paris. Ils m'ont payé des vacances. J'ai mangé magnifiquement. J'étais accueillie comme une princesse. Je ne savais même pas. Je n'avais mangé des crevettes dans ma vie. Je ne savais pas comment couper des crevettes. Je ne savais pas. Ils m'ont appris tout ça. Manger du homard, tout ça. Je connaissais pas ça. Et le Seigneur, il m'a mis dans la table des rois. Amen. En fait, ce qui est beau avec le Seigneur, et ce que je veux vraiment insister aujourd'hui, c'est que nous, on n'imagine pas ce qu'il a prévu. C'est tellement grand qu'on a, de la peine à le croire. Mais lui, il veut tout le meilleur pour ses enfants. Il veut tout le meilleur. Il veut qu'on soit en bonne santé, qu'on soit bien équipé, bien entraîné, tout. Il veut tout donner pour nous. D'ailleurs, il a donné son fils. Et ça s'est passé ensuite. Je suis allée donc à Paris, j'ai fait 3 mois au laboratoire, je faisais pas que de vacances, j'ai aussi travaillé. Et après, je suis retournée en Colombie. La deuxième fois, j'ai été encore une fois 3 mois. Quand je suis revenue de Paris, j'avais même économisé. J'ai dit à ma mère, regarde, j'ai ça, on peut faire un petit commerce. Et ma mère, elle avait appris à couper les cheveux, elle avait appris à faire coiffeuse. Et on a commencé avec un petit salon coiffure. Et ensuite, après tout ça, j'ai trouvé un travail, donc j'ai fini la biologie et je suis partie travailler pour l'État. Mais ça, c'était pas un moment extraordinaire parce qu'en fait, je suis arrivée à un poste de gestion de l'environnement et il se trouve que, malheureusement, il y avait des projets qui étaient pas très clairs au niveau financier, c'est-à-dire la corruption a fait surface en Colombie. Et alors, on m'a dit, soit tu signes, tu acceptes ça, soit tu perds ton job. J'ai dit, bah, je perds mon job. Je ne voulais pas toucher à ça. Parce que, vous savez, la corruption, c'est Si tu acceptes une fois, tu acceptes une deuxième, une troisième. Et après, tu es au fond du trou. Petite parenthèse, le directeur de cette institution est actuellement en prison. Il est en prison pour tout ce qu'il a fait. Bon, bref. Alors, donc, du coup, j'ai quitté, j'avais plus de travail. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au salon de coiffure. J'ai appris à couper les cheveux. J'ai appris et j'ai commencé à faire de la manicure, pédicure, etc. En attendant, j'ai été voir mon professeur, celui qui m'avait aidé pour aller à Paris. Et il m'a dit, comment? Tu es dans un salon de coiffure? Mais t'es biologiste, c'est quoi ça? Il a dit, non. Tu vas aller faire un master. Je dis non. Comment? J'ai pas d'argent, je n'ai rien. Il a dit, peu importe, tu peux aller chercher une bourse de la Confédération. J'ai dit, mais attends, moi, je sais pas comment faire. T'inquiète pas, je vais t'aider. Il m'a aidé à faire mon CV, à remplir les formulaires, à déposer la demande. Et on a déposé tout ça. J'ai été choisie, première sélection. Je reçois une lettre, vous êtes choisi pour la première sélection. J'ai dit, oui, super, ça c'est magnifique. J'ai dit à mes collègues de l'université, j'ai été choisi. Il y en a un, certains qui m'ont regardé. Dit, toi, aller en Suisse. Toi, non, tu vas pas en Suisse. Tu n'as pas le caractère, tu n'as pas les moyens, t'as rien. J'ai dit, bah, moi j'irai en Suisse. Et quand on a passé, donc j'ai passé la première étape, la deuxième étape, et c'était remplir une quantité de documents. Et ces documents, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais donner toutes les notes, donc les bulletins scolaires de l'école obligatoire et de l'université. Alors, je suis allée chercher ces documents et j'arrive à l'école où j'avais fait les études. Et j'ai dit à la sœur, je viens pour chercher des documents. Et elle a dit, écoutez, madame, on peut pas vous donner ces documents. J'ai dit, pourquoi? Parce que votre père n'a pas payé. Vous avez une dette ici. Et j'ai dit, comment c'est possible? Je suis même pas au courant. Elle a dit, oui, c'est plus ou moins l'équivalent de 400 francs suisses. Et j'ai dit, non. J'ai commencé déjà tout de suite. Je rentre à la maison, je pleure. Maman, s'il te plaît, prie pour moi. Ma mère a dit, Dieu peut tout pourvoir. On ne sait pas comment on va trouver cet argent, mais on va le trouver. Et alors, on n'a pas trouvé l'argent. On n'a pas trouvé l'argent. Mais j'ai trouvé une idée. Et j'ai été dire à la directrice, j'ai dit, écoutez madame, moi, je n'ai pas d'argent, mais je suis biologiste. Est-ce que je peux donner des cours dans votre école? Je n'ai pas besoin d'un professeur. Je n'ai pas besoin d'un enseignant ici. J'ai dit, mais c'est pas grave. Je peux vous montrer ce que j'ai fait en France. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Bon, d'accord. Et j'ai été travailler pendant 2 mois dans cette école et j'ai payé ma dette. Ils m'ont donné les documents et alors je peux les déposer. C'était pas facile parce qu'en fait, la Confédération demandait que tous les documents étaient traduits et on payait la traduction par page. Et c'est très très cher. Vous connaissez, c'est des tampons, tout ça, c'était long et voilà. Mais le Seigneur faisait chaque jour un miracle. Vraiment. Financièrement, c'était chaque jour qu'il fallait payer ça. Quelqu'un venait, me donnait, on recevait ou on gagnait au salon de coiffure. Après tout ça, la dernière étape est arrivée. J'ai passé la dernière sélection pour la bourse de la Confédération. Et j'ai été convoquée pour un examen de français et pour un entretien en français. J'ai reçu la communication. Et c'était marqué, bah, il faut aller telle date, tel jour, voilà. C'est présenté à Bogota. Donc, je viens d'une ville qui s'appelle Bucaramanga, qui est éloignée de Bogota, très éloignée, 14 heures de route. Ou en avion, bah, vous imaginez, l'avion, c'était pas envisageable. Et on a dit avec ma mère, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mon beau-frère, il s'élève. Et il dit, moi, j'ai une voiture. On va rouler 14 heures jusqu'à Bogota. Et j'ai dit, bah, on y va. Et on est parti comme ça. Et c'était pas facile. On est arrivé chez un oncle qui vivait dans une espèce d'hangar. On a dormi par terre. On n'avait pas de l'eau chaude pour se doucher. Et je suis arrivée devant l'ambassade. Et je descends comme ça. pour vous dire, je n'avais même pas des habits classe. Je me suis présentée comme j'étais. Et c'est joli parce qu'une dame, elle arrive dans une belle voiture. Elle descend avec son manteau comme ça. Elle arrive aussi à l'ambassade de la Suisse. Toute classe avec des chaussures au talon et moi en basket. Et cette dame, elle me regarde, me dit, vous, là, vous faites quoi? Je dis, peut-être la même chose que vous. On vient pour l'ambassade. Elle dit, mais vous pouvez vous payer une école en Suisse? J'ai dit, non, c'est la bourse qui paye. Elle a dit, ah, ça c'est des moments clés. C'est-à-dire, l'ennemi, il va toujours utiliser quelqu'un pour vous décourager. Il y aura toujours quelqu'un qui est juste prêt pour vous dire cette parole qui blesse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec cette parole? Il faut la sortir, l'arracher et la jeter. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée dans l'ambassade. J'ai présenté mon examen de français. C'était dur. Et après, la dame, elle vient me chercher, elle dit, écoutez, madame, j'ai vu votre examen de français écrit, alors on va faire en espagnol. Je dis, super. Et après ça, elle a commencé à me poser des questions. Quelle est la motivation d'aller en Suisse? Pourquoi la Suisse? J'ai tout expliqué. Et elle m'a dit, à la fin, bon, ben, merci, ça s'est bien passé. J'ai dit, écoutez, juste peut-être une question. Hein. Nous sommes combien de candidats? Elle a dit, vous êtes 35, il y a 2 places. J'ai dit, bah, voilà. Pour Dieu, tout est possible. Et quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, je reçois une lettre recommandée dans 3 langues. Vous savez, la Confédération. Et je reçois ça. C'était 10 heures du matin, mais c'était pour moi que tellement grand. J'arrivais pas à croire comment le Seigneur m'avait donné ça. Et Dieu, il a pourvu. Je suis venue en Suisse. J'ai commencé à étudier. Est-ce que c'était facile? Non. Le master était bilingue, anglais et français. Donc c'était dur, les cours, oui. Mais le plus dur, c'était pas les cours. Parce que j'ai aimé. C'était la solitude. Quand vous arrivez d'un pays, vous connaissez personne. Vous connaissez même pas quelqu'un pour pleurer dans son épaule. Rien du tout. C'était une période très dure. Mais le plus dur, c'était en fait d'arriver le soir. Quand tu rentres et tu retrouves un lit, j'étais à la cité universitaire, et les mouvements de toute l'université, tout c'est fini, c'est tout calme. T'es seul. Je n'avais pas encore à cette époque-là, je sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a maintenant, WhatsApp, etc. C'était l'année 2009. J'ai acheté des petites cartes pour téléphoner chez moi. Et j'allais dans la cabine. Et je me rappelle, j'ai acheté la carte de 10 francs. Et je disais, salut maman, ça va? Oui, ça va, ici tout va bien. Hein? Tic, 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 tic. C'était déjà fini. J'ai dit, non mais attends, je garde un tout petit peu de crédit pour la prochaine fois. J'enlève la carte, la prochaine fois je venais, je mettais la carte. 0, pas de crédit. Bon, c'était comme ça. Mais la bourse, quand même, c'était extraordinaire. J'avais pour manger, je pouvais payer mon loyer, je pouvais payer l'assurance. C'était extraordinaire. Mais le jour est arrivé où j'ai été dans une tristesse et dans une solitude. Et c'était le moment retour. Je me suis dit, je vais retourner en Colombie. Ici, je n'ai rien à faire. C'est trop dur. Je suis fatiguée. Je n'arrive pas. C'était un samedi matin. Je me suis levée. Et j'ai pleuré toutes les larmes qui pouvaient sortir de mon corps. Et je me suis assise par terre dans cette chambre. Et j'ai dit, Jésus, si tu existes, c'est maintenant ou jamais. Tu bois un peu d'eau pour... C'était le moment précis où j'avais besoin de ce Jésus présent. j'ai fermé mes yeux et j'ai fait cette prière. Et là, le surnaturel est arrivé. J'ai senti Jésus lui-même qui est venu, qui m'a serré dans ses bras et il m'a dit, tout va bien se passer. Je suis avec toi. Et c'était le moment clé pour moi où je peux vraiment changer. Tout qui a changé, c'était plus cette inquiétude du lendemain, c'était plus la solitude, c'était Jésus et moi. Et je crois même que là, j'étais, comme on peut dire, baptisée du Saint-Esprit, parce que j'ai commencé à entendre de plus en plus cette voix qui me disait quoi faire. D'ailleurs, c'était tellement beau quand je sors ce jour-là. Je suis sortie où j'ai habité, c'était la tour de Cadol, à Neuchâtel. Et je suis sortie de là, et la voix me disait, Monica, change de chemin, je veux te montrer quelque chose. J'ai été par derrière, je suis tombée dans des jardins magnifiques. Il m'a dit, toutes ces fleurs sont pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Et il m'a dit, va, et tu peux t'acheter un avocat. Parce que j'aime bien les avocats, mais ici, c'est difficile je me suis acheté un avocat, je l'ai mangé comme ça, pour me rappeler de chez moi. Et le Seigneur a commencé à travailler dans mon cœur. Tout ce temps. Et j'ai fait le master, et pendant le master, j'ai rencontré Nicolas, qui était mon voisin, en fait. Et Nicolas a commencé à remplir ma vie, et on est devenus amoureux, mais la fin du master arrive. Il fallait partir. Les derniers jours des cours, c'était le 20 février. Et le 20 février, j'avais mon billet de retour. La Colombie n'a pas des accords avec la Suisse. On ne peut pas rester 3 mois de plus ou comme ça. Dernier jour de permis, dernier jour, au revoir. Mais lui et moi, nous avons ensemble prié. Et on a dit au Seigneur, si c'est ta volonté, quelque chose va se passer. Et je vais pouvoir revenir. Et on s'est quitté là, dans les larmes. Et après, je suis rentrée en Colombie. Et j'ai commencé, je me suis trouvé encore un poste, un travail. J'ai commencé à travailler toujours dans le surnaturel. Toujours dans le surnaturel. Toujours, tous les jours. Jusqu'à ce que je reçois un mail de mon professeur de l'université de Neuchâtel, où j'ai fait le master. Il y a un poste. Tu veux venir pour faire un doctorat? C'est pour toi. Je suis revenue et j'ai fait un doctorat. Et c'était ce doctorat pour moi, je l'ai fait avec la foi. C'est-à-dire, à chaque expérience au laboratoire que je faisais, je ne demandais pas aux autres, je demandais au Saint-Esprit. Je disais, Saint-Esprit, c'est toi qui connais ce domaine, c'est le tien. La science appartient au Saint-Esprit. Et il m'a montré, et on a fait de bonnes découvertes, on a publié. Et le Seigneur, il a fait. Et alors, j'ai fini mon témoignage en disant que j'ai continué dans mon chemin avec le Seigneur. J'ai continué à connaître qui est encore Jésus. De plus en plus, à mourir à moi-même et l'accepter que lui, il fasse à ma place. Parce que si tu laisses que le Seigneur puisse prendre 100% de ta vie, il va aller dans son projet. Le projet qu'il a pour toi. C'est pas le même que mien. Je sais pas ce que Dieu il a prévu. Mais en tout cas, pour chacun de nous ici, il y a un plan merveilleux. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit, et pour conclure ça, il m'a déjà donné quelques mots pour vous donner. Et alors, des petits conseils, on va dire. Si vous avez une situation impossible, vous dites, est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est un enfant qui est dans la rue? Perdu. Si vous avez quelque chose que vous dites dans votre cœur, je ne peux rien faire. C'est le domaine de Dieu. Alors, je vous conseille une première chose, c'est être en mouvement. Être en mouvement, ça veut dire qu'on a les yeux ouverts pour voir les portes qui s'ouvrent, les solutions qui sont autour de nous. Ouvre tes yeux. Simplement, être en mouvement. Si cette porte se ferme, c'est pas ça. Cherche la suivante. ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Deuxième chose, Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'utiliser, pour te donner ses bénédictions et son aide. Dieu veut rattraper le temps perdu avec toi. Si tu considères que pendant ta vie, tu as perdu du temps, pour lui, ce n'est pas un problème. Le temps, ça lui appartient. Il utilise ton vécu, ton expérience. Il utilise ce qu'il a mis, cette essence qui est en toi, pour parler autour de toi. Il ne te condamne pas. Il veut que tu sois simplement attaché à lui et que tu puisses vraiment constamment le prendre comme principale référence. Il aimerait que ton être, toi, explose dans le feu de l'esprit pour le reconstruire avec la colle du Saint-Esprit. Il aimerait te faire des petits morceaux et après il va recoller des morceaux. Et dans chaque partie de ton être, le Saint-Esprit sera là. Comme ça, tu pourras vraiment écouter, obéir et faire comme il a prévu. C'est ça en fait, cette essence de Saint-Esprit. Encore une autre chose, cherche sa présence. C'est chercher sa présence parce que sa présence, c'est, ça libère, ça guérit, ça encourage, ça t'enlève la peur. L'Esprit de Dieu, il va petit à petit, il s'attache à toi. Petit à petit, et tu te détaches du monde. Petit à petit. Et cette communication, ça devient comme, en fait, comme la radio, vous savez, la fréquence. Vous vous rappelez, à l'époque, on tournait jusqu'à ce qu'on entendait la bonne fréquence. C'est ça, nous. On doit tourner jusqu'à ce qu'on trouve la bonne fréquence. Et cette tournée, cette molette, c'est mettre un peu de notre côté et le pas dans le bus, monter dans le vide, même si tu n'as pas encore ou tu vois rien encore. Donc, en conclusion, Jésus peut briser le mur de l'impossible. Il peut briser les murs de ce que dans ta tête, en fait, parce que c'est dans ta tête, que les choses impossibles sont là. Parce que toi, t'as dit, Dieu agit comme ça, comme ça. Mais Dieu, il agit pas comme ça. Il agit comme il veut. Et c'est de briser ces murs et que ces murs puissent complètement être détruits. Je ne suis pas un produit fini. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes avec quelques sœurs, un groupe de femmes qui prions. Et nous avons décidé de prier et de prier et de prier jusqu'à ce que les murs tombent. Est-ce que pour moi, je suis dans un bateau, dans le lac de Neuchâtel, comme ça, tout paisible? Non, je suis dans une tempête. Mais la tempête n'est pas un problème pour Jésus. Et alors, mon cœur maintenant, ça serait, si toi, peu importe ce qui sont les autres autour, tu sens que tu es dans une situation impossible, tu peux simplement lever la main et je vais prier pour que cette situation tombe et que la porte s'ouvre pour que tu puisses vraiment partir aujourd'hui que ce que pour toi est impossible, pour Dieu ne l'est pas. Et si tu vois une situation, tu te dis, attends, non, mais ça, c'est... Ça, je peux rien. Alors, je finis comme ça. Juste, ou si tu veux pas lever ta main, c'est peu importe. Le Seigneur, il le sait. Et je vais faire une courte prière sur ça. Qu'est-ce que tu penses, Philippe? Oui. Merci. Oui, Seigneur, je voudrais te présenter toutes ces situations, Seigneur, qui sont ici, avec tous tes enfants qui sont là. Et j'aimerais te demander que ton esprit, avec ton feu puissant, puisse briser les murs. Et que tout ce qui empêche qu'on puisse recevoir de ton esprit, tombe. Que tombe maintenant au nom de Jésus. Amen.